Bonsoir, chers auditeurs, soyez les bienvenus sur la fréquence de Radio Résonance à l'écoute de l'émission Rencontre Lusophone. Et toujours dans ce contexte triste et morose d'épidémie, nous voici dans une autre émission confinée enregistrée dans notre salon. Ce soir, je laisserai la parole à Manu qui nous a préparé une belle chronique sur la belle ville de Porto. Mais avant cela, j'ai tenu à vous parler du contexte xénophobe qui grandit de plus en plus au Portugal. Ce sera mon coup de gueule du soir.
Résonance 96.9.
Tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
À l'heure où tout le monde entier est confronté à une vague montante de xénophobie, je pensais le Portugal un peu épargné quand même par ce fléau. Eh bien non. La fameuse croyance d'une pseudo-tolérance des Portugais à l'égard des autres peuples n'est plus qu'un mythe. Le Portugal ne fait plus exception en matière d'attitude et de comportement raciste, que l'on observe d'ailleurs déjà très largement dans la plupart des pays d'Europe. Puisque ces derniers mois, le pays a été secoué par une vague d'attaques xénophobes et racistes. Un enchaînement d'incidents qui brise d'ailleurs l'ambiance et le fonctionnement de la société portugaise et qui commence à préoccuper fortement les autorités. Puisque mine de rien, des événements ponctuels surviennent ça et là depuis quelques années déjà. Tenez, voici déjà un premier exemple. Il y a quasiment un an, dans une université de Lisbonne, une poupée noire portant la mention « Frappez-moi » avait été placée dans un couloir. Elle avait été mise là par une société spécialisée dans la réduction du stress. Une initiative malheureuse de la part de cette société qui avait assez rapidement d'ailleurs suscité un tollé parmi les étudiants et certains professeurs et qui avait fait l'objet d'une dénonciation et d'un dépôt de plainte. Certains étudiants indignés n'avaient d'ailleurs pas attendu le dépôt de plainte pour retirer la poupée à la vue de tout le monde, heureusement. Le second incident raciste que je vous donnerai en exemple est une blague xénophobe qui a eu lieu dans une fac de droit à Lisbonne contre des étudiants brésiliens. Il y a quelques mois, on y avait en effet déposé une caisse contenant des pierres. Une caisse sur laquelle il y avait un écriteau portant la mention suivante « Pierre gratuite, si c'est pour jeter sur un zouk ». Zouk étant le diminutif de brezouk, un surnom péjoratif qu'utilisent les Portugais pour désigner un Brésilien. Alors derrière cette sale blague, il y avait en fait un groupe satirique, les Tertulias Libertas, un groupe créé au lendemain de la Révolution des œillets pour moquer les profs d'université et les étudiants. Et là encore, il ne faut pas oublier que cette blague immonde faisait tout de même appel à la lapidation comme au temps des Romains. L'université avait bien évidemment ouvert une enquête disciplinaire et le ministre de l'Enseignement supérieur fermement condamné ses agissements. On en attendait d'ailleurs pas moins d'eux. Un professeur de la fac, particulièrement indigné, avait même publiquement réagi dans un quotidien avec ces mots « Si ces élèves sont nos futurs avocats, que Dieu nous protège ». Heureusement, des gens s'indignent encore contre ces agissements xénophobes. Mais l'horreur des horreurs est arrivée au mois de juillet dernier, toujours à Lisbonne, lorsqu'un homme noir a été victime d'un crime raciste. Il s'appelait Bruno Condé. Il s'était assis sur un banc public pour écouter sa radio lorsqu'un homme blanc, âgé de 76 ans, l'a froidement abattu de 4 coups de feu à bout portant. L'assassin fanatique avait bien évidemment prémédité son geste puisque quelques jours auparavant, il avait copieusement injurié de propos racistes ce jeune acteur d'origine bissau-guinéenne. Ce meurtre raciste avait d'ailleurs provoqué une onde de choc au Portugal dans un contexte de violents affrontements aux États-Unis à la suite de la mort de l'afro-américain George Floyd. Quelques jours avant la mort de l'acteur, des inscriptions xénophobes avaient été même apparues sur le siège de SOS Racisme au Portugal. « Guerre aux ennemis de mon pays », c'est ce qu'on a pu lire sur la façade rose de l'association. Suite à cela, il y a ensuite eu, toujours devant le siège de SOS Racisme, une dizaine de nationalistes masques blancs sur le visage et torches à la main qui ont défilé dans une claire référence aux suprémacistes blancs et au Ku Klux Klan américain. Par ailleurs, toujours dans ce contexte, des menaces très claires avaient également été formulées contre 10 militants et députés engagés, dont deux luso-africains, dont le président de SOS Racisme Portugais. Alors, je me pose la question, comment au Portugal, dans un pays où l'on soit vous non raciste, a-t-on pu en arriver là? Eh bien, la réponse, on la doit peut-être déjà à l'entrée au Parlement du parti Chega, le parti de l'extrême droite portugaise qui a réuni 1% des voix lors des législatives de 2019 et qui n'en finit pas de bouleverser la donne. Son député André Ventura, qui revendique le parrainage de Matteo Salvini en Italie, utilise d'ailleurs certains ressorts odieux comme la xénophobie ou la corruption. Un homme malsain évidemment qui joue d'ailleurs sur tous les tableaux. Parce que figurez-vous que lors de la dernière convention du parti, il y a à peine un mois, il avait laissé passer une motion prenant le retrait des ovaires aux femmes qui avortent. Rien que ça. Heureusement, les protestations de rue l'ont fait reculer et il a finalement retiré sa motion. Mais pour combien de temps? Et puis bien évidemment, comme tous ses potes européens d'extrême droite, André Ventura surfe allègrement et encore toujours sur le populisme. Mais je me demande quand même si au Portugal ce fléau du racisme ne serait pas un peu plus profond. Puisqu'il faut bien avouer que le racisme en a toujours fait exister au Portugal, comme d'ailleurs dans toutes les sociétés possédant un passé colonial. Il s'agirait donc là d'un racisme complètement structurel. Et en fait, l'arrivée du parti d'extrême droite Chega ne serait finalement qu'un simple amplificateur de ce racisme. Un amplificateur qui ne fait d'ailleurs que légitimer de manière institutionnelle un racisme ordinaire dans un cadre démocratique. On peut donc affirmer que ce parti ne fait qu'utiliser le sentiment d'abandon des classes populaires face aux difficultés socio-économiques. À titre indicatif, je vous rappelle juste qu'André Ventura sera candidat à la présidentielle portugaise de janvier 2021. Alors maintenant, arrêtons de penser qu'au Portugal, les racistes, ce sont les autres.
Mas fundo. C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Porto est la deuxième ville du Portugal. Elle fait environ 250 000 habitants. Mais le Grand Porto, la zone d'influence de la ville, quant à elle, fait près de 2 millions de personnes. Il faut reconnaître que sa beauté n'a rien à envier à Lisbonne. Il suffit de se promener dans le magnifique quartier Ribeira, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour s'en rendre compte. Les deux villes furent et sont encore en constante rivalité. Pour s'en conforter l'idée, il faut juste ressentir l'ambiance dans un stade de foot, quand le Benfica de Lisbonne et le FC Porto s'affrontent, pour mesurer l'animosité qu'il peut y avoir entre les deux cités. Des sœurs ennemies en quelque sorte, et pourtant, il suffit de jeter un regard en arrière pour se rendre compte que toutes les deux ont eu sensiblement la même histoire, semée de gloire et de malheur, et bien aussi évidemment d'embûches et d'invasions de toutes sortes. Porto, comme d'innombrables d'autres villes, a subi des mises à sac, des incendies et des massacres, comme en 858 où la ville fut pillée par les Vikings. Porto est aussi le berceau de grands personnages de l'histoire du Portugal. Le plus célèbre reste incontestablement Henri le Navigateur. Des fouilles archéologiques ont montré que, dès l'âge du bronze, des hommes se sont installés à l'embouchure du Douro. Plus tard, bien avant les Lusitanos, le site fut occupé par une peuplade que l'on appelait les Offices. Et leur terre était appelée par les peuples de la Méditerranée Ophiusa, la terre des serpents. D'ailleurs, c'était toute la côte occidentale de la péninsule ibérique qui était appelée ainsi, soi-disant qu'ils vénéraient une déesse serpent. Les historiens de nos jours pensent que Porto certainement fut fondé également par les Phéniciens, qui, après s'être arrêtés sur l'embouchure du Tage, continuèrent leur lancée vers le nord. Ils implantèrent sur le site un comptoir qui leur permettait de commercer avec l'Europe du Nord. D'autres affirment qu'elle aurait été fondée par les Grecs, mille ans avant Jésus-Christ. Comme Lisbonne, Porto a sa petite légende. Elle aurait été fondée par Cale, Calais en grec. Dans la mythologie grecque, il faisait partie des Argonautes. Les Argonautes étaient l'équipage du bateau Argos, qui accompagnèrent Jason en Colchide pour trouver la toison d'or. Et c'est donc pour cela que le lieu fut appelé Portus Cale, le port de Cale, qui donna plus tard, vous en doutez bien, le nom au pays, le Portugal. En réalité, suite aux invasions celtes, ce sont les Lusitanos qui occupèrent les territoires qui correspondent grosso modo au Portugal d'aujourd'hui. Et sur l'embouchure du Tour, sur la rive gauche plus précisément, une petite ville vit le jour, qui fut appelée Cale. Plus tard, pendant l'occupation romaine, la cité fut déplacée sur la rive droite et fut baptisée par les Romains Portus Cale. On ne sait pas trop d'où vient le nom Cale. A priori, cela viendrait d'un mot latin qui signifie « calme et beauté », car l'endroit était accueillant et l'estuaire offrait un havre sûr aux bateaux qui avaient pu franchir la barre. En 456, après la chute de l'Empire romain, les Visigoths et les Suèves envahirent le nord du Portugal. Et le roi Doric II fut à la tête de Portus Cale jusqu'aux invasions arabes en 716. Dans ces années-là, les Visigoths furent repoussés jusqu'aux Asturies, dans le nord de l'Espagne actuelle. Et les Arabes occupèrent Porto, jusque vers 820. Elle fut reprise par le roi Afonso Ier de Asturies. À la suite de la reconquête de la ville, elle tomba en désuétude et fut pratiquement abandonnée.
Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao da ponte és cascata sanjoanina erigida sobre monte no meio da neblina por ruelas e calçadas da ribeira até à foz por pedras sujas e gastas e lampiões tristes e sós. esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa.
Ce n'est qu'en 880 que le dernier roi assyrien, Alphonse III, ordonna de la repeupler. Dans les siècles qui suivirent, la région devint un condé que l'on appela le condé portugalais. Et Porto en était la ville la plus importante. En 1096, le roi de Léon et Castille, Alphonse VI, donne sa fille Teresa en mariage à Henri de Bourgogne. Mais le condé portugalais en dot avec Porto comme sa capitale. La suite est dans tous les bons livres d'histoire portugais. Leur fils, Afonso Henrique, déclara l'indépendance et devint le monarque du royaume du Portugal, suite à la bataille d'Ourique, où il vint à bout d'une armée composée de musulmans, de léonins et de castillans. Mais malgré tout, ce n'est qu'en 1143, la mort dans l'âme, que le roi Afonso VII de León reconnaîtra le royaume du Portugal et la souveraineté de son cousin Afonso Henrique Ier. Malgré que Porto soit devenue une ville importante, la capitale du tout jeune royaume était Guimarães. De là partira Afonso Henrique à la conquête du pays. En 1147, Dom Pedro Rouge, évêque de Porto, attend impatiemment sur les quais du fleuve Douro l'arrivée d'une énorme armada de plus de 200 bateaux et 13 000 hommes, composés de Flamands, d'Anglais, d'Aquitains et de Rhénans. Ils arrivent sur l'embouchure du Douro pour y faire escale. C'est la deuxième croisade. Ils ont comme destination la Palestine pour libérer Jérusalem du joug musulman. L'évêque de Porto est mandaté par le roi du Portugal pour persuader les croisés de l'aider à libérer Lisbonne et rejeter les Arabes. Après âpres discussions, les croisés acceptèrent et s'embarquèrent de Porto vers Lisbonne pour aider Afonso Henrique de prendre la ville blanche. Au XIVe siècle, la ville a comme devise Antigas, Muito Nobre, Sempre, Leal et Cidade Mita, qui veut dire cité ancienne, très noble, toujours loyale et invincible. Et elle commence réellement à avoir une grande renommée et à devenir un des ports les plus importants d'Europe. La ville soutiendra le grand maître d'Avise, le futur roi Jean Ier, lorsque les Castillans envahiront Lisbonne. Avec l'aide des Anglais, Jean Ier expulsera les Espagnols lors de la fameuse bataille d'Aljubarrota et se mariera avec une princesse anglaise, Philippa de Lancastre, à Porto. De leur union, des rois et des noms illustres verront le jour, dont un certain Henri le Navigateur, né à Porto également. Ville dont plus tard, en 1415, il fera partie à l'expédition pour conquérir Ceuta. Mais revenons un peu en arrière. Vers 1330, Porto est une ville prospère. Elle est un port important de l'activité mercantile. Puis, vers 1350, la ville se dote de nouvelles murailles pour parer d'éventuels ennemis. Elles ne seront achevées que sous le règne de Fernando Ier. À cette époque, Porto était très pieuse, et la différence entre les groupes sociaux était bien souvent source de conflits, entre la noblesse et le cour du roi, entre évêques et archiprêtres, entre les bourgeois et les fidalgos, entre riches et pauvres. Le Porto médiéval était un véritable labyrinthe, fait de rues étroites et tortueuses. Elle prospérait grâce au commerce avec les pays du Nord qu'elle pratiquait assidûment. En 1414, Don Juan Ier prépare l'expédition pour Ceuta. Henri le Navigateur n'a que 20 ans et il est prêt à en découdre avec les Arabes. La population de Porto va se mobiliser pour la préparation, financièrement et en fournissant énormément de vivres, fruits et viandes. Ils se sacrifièrent au point que, c'est la petite histoire qui le dit, qu'après le départ de l'expédition pour Ceuta, il ne leur restait plus que des abats et des tripes à manger. Pourquoi les tripes? Parce qu'elles supportaient mal le voyage et pourrissaient très vite. De là est venu le surnom des habitants de Porto, Os Tripeiros. Ils sont allés écouler un plat traditionnel, je vous le donne en mille, les tripes à la mode de Porto. Le Porto du XVe siècle va se diviser en trois. au Alto Porto, au Baixo Porto et au Monte do Olival. La zone haute est la partie de la colline où se situe la cathédrale. C'est là que sont rassemblés les pouvoirs ecclésiastiques de la ville. La partie basse, à partir du milieu du XIVe siècle, est le quartier des pêcheurs, des commerçants et des gens de la finance. Et la place de la Ribera en est le centre névralgique. C'est véritablement le Wall Street de la ville de Porto. Au Monte do Olival est une zone plus paysanne et la moins peuplée de la ville. C'est là que se forme le quartier juif. À l'époque, il y avait une volonté certaine de la municipalité, plus ou moins, de parquer les juifs. En quelque sorte, une forme de ségrégation avant l'heure. Même de nos jours, la zone do Olival est associée à la domination de quartiers juifs. Comme dans le reste du pays, les grandes découvertes eurent une influence énorme sur Porto. Les produits venant de l'Orient circulaient dans les principaux marchés de la ville. On voyait parader dans les rues des nouveaux riches portant des bijoux et ostensiblement montrer aux yeux de tous leur réussite. La plupart s'enrichirent non seulement grâce aux produits venant des Indes, mais aussi grâce au commerce d'esclaves. C'est aussi à cette époque que l'on vit les premiers autodafés dans la ville, menés par l'évêque Balthazar Limpo. Au XVe siècle, Porto eut une énorme expansion et devint réellement la capitale du nord du Portugal. La voirie s'améliora considérablement. Les rues furent pavées, du moins les principales artères. De nouvelles places ont vu le jour, au point que vers la fin du XVIIIe siècle, la ville s'écarte de là des murailles de Don Fernando. L'occupation espagnole, qui dura 60 ans, de 1580 à 1640, fut très mal vécue par la population de Porto, qui ont vu les impôts monter en flèche. Une fois l'indépendance retrouvée, la maison de la monnaie, à Casa da Moeda, fut rétablie dans la cité. Au XVIIIe siècle, deux personnages firent beaucoup pour l'embellissement de la ville. En 1725, Nicolas Nazzoni, un architecte italien, établit à Porto. La ville lui doit la construction de la Tour dos Clericos, la tour du clergé, du palais de Fresnes, au palacio de Friche, et de la façade de l'église de la Miséricorde, l'église de la Misericordia. João de Almeida, lui, fut plutôt un grand urbaniste. Il fit prolonger plusieurs rues comme celle de Saint-Jean, Santa Catarina et Saint-Idéfonse. Il fera naître de terre de nouvelles artères, tissant un maillon urbain sensiblement pareil à celui d'aujourd'hui. C'est lui aussi l'initiateur de la création du premier théâtre lyrique à Porto. Son fils, Francisco de Almeida, continuera le travail commencé par le père.
Vamos rapazes, vamos, vamos lá para o São João. Para as fonteinhas com a melhor sem balão.
Haja alegria, animação, pois é assim que nos manda a tradição. Haja alegria, animação, pois é assim que nos manda a tradição. São João
do Carneirinho,
São João
das Orvalhadas,
São João
do Belo Vinho,
do Café e das Torradas. São João
do Mais Rico,
São João
do Alho Porro,
São João,
eu não me fico,
São João,
eu por ti morro.
Vamos, 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 vamos lá para o São João. Nas fonteinhas com a melhor sem balão. Haja alegria, animação, pois é assim que nos manda a tradição. Haja alegria, animação, pois é assim que nos manda a tradição. São João
das fonteinhas,
São João
da Pioqueiro,
São João
das solteirinhas,
és o santo do Mindanheiro. São João,
tuas cantigas,
São João,
fazem bailar,
São João,
as raparigas,
São João,
querem casar.
Vamos, 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 vamos lá para o São João. As fronteirinhas com a melhor sem balão. Haja alegria, animação, pois é assim que nos manda a tradição. Haja alegria, animação, pois é assim que nos manda a tradição. Vamos, 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 vamos lá para o São João. As fronteirinhas com a melhor sem balão. Haja alegria, animação, pois é assim que nos manda a tradição. Haja alegria.
Bien sûr, on ne peut pas parler de Porto sans son célèbre vin du même nom, qui fit le tour du monde. Il s'invita dans les plus grandes monarchies européennes et fit le bonheur d'une majorité d'Anglais. L'histoire de Porto commence en 1667. Cette année-là, Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV, en tant que contrôleur général des finances, décide d'augmenter les droits de douane sur les vins français, destinés à l'exportation et notamment ceux destinés à l'Angleterre. Alors, les Anglais, tout naturellement, se tournent vers leur plus vieil allié, le Portugal, et commencent à exporter un petit vin sec et corsé, issu de la vallée du Douro. Malheureusement, le vin supporte mal la traversée et finit bien souvent en une misérable vinasse. Pour limiter cet inconvénient, ces foutus Anglais ont une idée de génie. Ils rajoutent au vin du brandy, c'est-à-dire de l'eau de vie de vin. Avec ce mélange savant, le vin perd de son acidité mais conserve une partie de ses sucres. Le Porto est né. Mais dans les années qui suivirent, il est victime de son succès. Pour satisfaire une demande de plus en plus grandissante, des pratiques douteuses se développent. Ajout de sucre ou du jus de sureau pour lui donner une belle couleur. Ces abus vont alors faire chuter les ventes. Devant ce constat alarmiste, le marquis de Pombal prend une décision énergique. En 1756, le négoce du Porto passe sous contrôle de l'État, avec la création de la Compagnie Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, qui du coup obtient le monopole du commerce avec l'Angleterre. La même année, Pombal fera délimiter la zone de production du Porto par 335 bornes de granit dans la vallée du Douro jusqu'à une centaine de kilomètres de Porto. L'année d'après, les vignes de la vallée sont classées en fonction de leur qualité. On différencie notamment les vignes de fattoria, destinées à l'exportation, aux vignes de rame, destinées quant à eux à une production locale. Ces mesures annoncent tout simplement nos appellations d'origine contrôlée que l'on connaît aujourd'hui. Le Chianti, quelques années plus tôt en Italie, eut les mêmes mesures, à quelque chose près. Elles étaient moins rigoureuses et surtout sur le terrain, la délimitation était floue. On peut dire, dans ce cas, que le vrai premier AOC de l'histoire fut vraiment le vin de Porto.
Primeiro, a serra semeada, terra a terra, nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa. Depois o verde que se ganha ou que se perde, quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Suor do rosto para pisar e ver o mosto, nos lagares do bom caminho, nos lagares do bom caminho. Assim cuidado faz-se um sonho fermentado, generoso como o vinho, generoso como o vinho. E pelo rio vai dourado o nosso brilho, nos rebelos de uma vida, nos rebelos de uma vida. E para o mundo vão garrafas cá do fundo, de uma gente e vai descida, de uma gente e vai descida. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, à la beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar.
Por isso há festa, não há gente como esta, quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão.
Vem a fanfarra e os miúdos algazarra, mais o povo que se agarra para passar a procissão.
E são atletas, corredores de bicicletas e palavras indiscretas na boca da gorra.
E as barracas, mais os cortes nas casacas, os conjuntos, as ressacas e outro brinde que se faz. Vinho do Porto, vou servi-lo neste cálice, alicerce da amizade em Portugal. É o conforto do amor tomado aos tragos que trazemos por vontade em Portugal. Se nós quisermos entornar a pequenez, se nós soubermos ser amigos desta vez, não há champanhe que nos ganhe, nem ninguém que nos apanhe, porque o vinho é português. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto para o nosso mar. Vinho
Porto, e mar há de haver Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar.
Em 1807, les troupes françaises de Napoléon déferlent au Portugal. Le roi Jean VI se réfugie au Brésil, conseillant aux Portugais, avant de partir, de recevoir les envahisseurs comme des amis. La seconde invasion, celle qui vint par le nord, fut la plus terrible pour les gens de Porto. L'attaque des troupes françaises se passa le 29 mars. Les habitants de la ville, pris de panique, fuirent désemparés devant les soldats et se précipitèrent sur le pont qui traversait le Douro. C'était un pont de bois planté sur des barques. Sous le poids des milliers de gens qui tentaient de fuir, le pont céda. La tragédie fit des centaines de morts. Dans les jours qui suivirent, les troupes françaises saccagèrent la ville, jusqu'à l'intervention des Anglais qui les expulsèrent. Et enfin, en 1911, les Français quittèrent définitivement le pays. Et le roi Jean VI retrouva son trône portugais, du moins 10 ans après. Car entre-temps, de 1811 à 1820, le Portugal fut sous protectorat anglais. Mais apparemment, l'occupation anglaise ne fut pas meilleure pour la population de Porto que la française. Les années qui suivirent furent troubles. Sa tradition pour la lutte des droits civils a conféré à Porto sa réputation libérale et progressiste. En 1820, Porto a été la scène d'un soulèvement militaire qui a mis fin à la monarchie absolue donnant naissance à une constitution libérale. Si nous parlions de ponts maintenant, à Porto on en compte 6. Du pont Dom Luís au pont do Maria Pia. Tout d'abord le pont Dom Luís, littéralement l'emblème de Porto, conçu par un élève de Gustave Eiffel. L'ouvrage relie le vieux Porto, la partie haute, et le quartier de Ribeira, la partie basse, à Vila Nova de Gaia. Il fut inauguré en 1886. Il s'agit d'un pont métallique à 2 étages. Le pont Rábida, en béton, fut inauguré en 1963 et construit par Edgar Antonio de Mesquitas Cardoso. Il a détenu un temps le record mondial des ponts en arc et en béton armé. Conçu par Gustave Eiffel, qui vécut à Porto pendant quelques années, et Théophile Sérig, le pont ferroviaire Maria Pia a été inauguré en 1877. Son nom fait référence à une princesse de Savoie, épouse du roi Louis Ier du Portugal. En 1991, il a été remplacé par une construction plus moderne, le pont Saint-Jean. Il y a aussi le pont routier Infante Dom Henrique, mis en service en 2002. Le pont de Flèche, inauguré en 1995, conçu par Antonio Reis. Il relie Porto à Vila Nova de Gaia. Il mesure 700 mètres. Et puis, au niveau maritime, le port de l'Échange, quand lui fut construit en 1890, ce qui a permis de stimuler la croissance économique de Porto. Pour ce qui est des pandémies, évidemment, Porto ne fut pas épargné. Dès le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, la cité a dû subir toutes sortes de calamités qui sévissaient dans le pays, de la peste noire au XIVe siècle à la grippe espagnole de 1918. Et bien sûr, plus récemment avec la Covid-19.
A quem encontra no seu caminho, lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção daquilo que faz, entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, abaixo o copinho.
Em janvier 1891, une révolte républicaine éclate à Porto, au son de la Portugaise. Au milieu de la foule, on entend ci et là des « Vive la République ». Pour quelques heures, la République sera proclamée. Le drapeau républicain vert et jaune que tout le monde connaît flottera devant l'hôtel de ville. Hélas, cette révolte sera vite réprimée. Et la monarchie reprendra vite ses droits. Il n'empêche que la machine s'était emballée et un élan révolutionnaire était né qui aboutira irrémédiablement à la mise en place de la République et la chute de la monarchie le 5 octobre 1910. Au début du XXe siècle, avec l'arrivée de la République, la ville s'est transformée. L'avenue des Alliés, entre autres, fut le grand symbole de la cité à cette époque. Porto traversa le XXe siècle à l'image du pays. Elle a dû subir le départ de sa jeunesse vers les champs de bataille en France pendant la Première Guerre mondiale. Elle prit de plein fouet la dictature de Salazar pendant presque 50 ans. C'est de ces années-là qu'est né le dicton qui dit que « Quand Lisbonne se pavane, que Coimbra étudie, Porto travaille ». Pendant l'hémorragie migratoire des années 60, Porto et le nord du Portugal payèrent un lourd tribut. Des centaines de jeunes fuirent une misère et une dictature insoutenable. La restauration de la démocratie le 25 avril 1974 gagna rapidement Porto, qui eut le même mouvement révolutionnaire que Lisbonne. En 1996, au vu de sa richesse historique, de ses monuments et surtout de la beauté exceptionnelle de la vieille ville, l'UNESCO classa la partie ancienne de Porto dans le patrimoine mondial de l'humanité. En 2001, Porto, conjointement à Rotterdam, fut élue capitale européenne de la culture. De nos jours, des centaines de milliers de touristes affluent vers Porto tous les ans. Ces dernières années, le monde entier se tourne vers le Portugal, notamment Lisbonne et Porto. Hélas, avec la mode du Airbnb, beaucoup de quartiers à Porto risquent de perdre leur âme, comme cela est arrivé dans le quartier d'Alfama, à Lisbonne, par exemple, ces dernières années. Mais bon, il faut dire quand même que la moyenne est belle. Il y a tellement de beaux endroits à visiter à Porto que cela est dur de faire une sélection, mais malgré tout, voilà les incontournables. Tout d'abord, à Avenida dos Aliados, l'avenue des Alliés. Elle est le centre et le cœur de la ville. Au bout de cette avenue, il y a le beau monument qui sert d'hôtel de ville à Porto. En descendant vers Ribera, non loin de là, la magnifique gare San Bento, dont les murs du hall sont couverts de splendides azulejos. Puis il y a aussi la Rua Santa Catarina, c'est la rue commerçante la plus fréquentée de la ville. D'ailleurs, une bonne partie est réservée aux piétons. En plus des commerces, il y a beaucoup d'artistes de rue et de petits spectacles. C'est dans cette rue que vous trouverez aussi le fameux Café Majestic, considéré comme un des plus beaux du monde. Dans la même rue, vous trouverez également la Capella das Almas et le centre commercial Via Catarina. Et puis, il y a aussi la Livreria Lello, la librairie Lello. On la considère comme une des plus belles librairies du monde. Elle a servi d'inspiration à J.K. Rowling pour écrire ses romans d'Harry Potter. L'escalier qui sert à monter à l'étage supérieur est à tomber par terre. Et puis, il y a la Tour du Clergé, la Tour dos Clericos. Elle mesure 76 mètres quand même. Au moment de sa construction, entre 1754 et 1763, elle fut l'édifice le plus haut du Portugal. Encore aujourd'hui, c'est le plus haut clocher du pays. Et je ne vous parle pas du panorama sur la ville qu'on a de là-haut. Le centre portugais de la photographie, qui est à côté de la tour du clergé, est sûrement un des bâtiments de la ville la plus chargée d'histoire. Il fut longtemps un tribunal et une prison. Il fut construit à la fin du XVIIIe siècle et accueillit pendant 200 ans les criminels et les droits communs de la ville. Le célèbre écrivain Camilo Castelo Branco y fut incarcéré. Il avait été accusé et reconnu coupable d'adultère, avec Ana Placido également emprisonné dans cette prison. Le palais de la Bourse, construit dans un style néoclassique et inspiré du simoresque. Et puis il y a aussi l'église San Francisco, qui est surprenante, malgré que, extérieurement, elle est somme toute banale. Elle ressemble à tant d'autres églises de par le monde. En fait, ce qui la rend unique, c'est l'intérieur. Ses murs sont tapissés d'or. Il a fallu près de 500 kilos d'or pour recouvrir littéralement à l'intérieur de l'église. Bien sûr, il y a aussi Assé, une cathédrale de style mauresque. Elle a été construite au XIIe et XIIIe siècle. À ses débuts, elle fut fortifiée pour protéger la ville des envahisseurs. Il y a aussi le quartier Ribera, évidemment, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur la rive gauche, d'Odor, vous trouverez à Vila Nova de Gaia, il y a les chais du vin de Porto, paraît-il, qu'il y en aurait une cinquantaine de caves. À Vila Nova de Gaia, il y a aussi le monastère de Serra do Pilar, qui vaut le détour. Une des plus belles églises de Porto et sans contexte, l'église do Carmo. Elle fut classée monument national en 2013 pour sa façade et les sculptures dorées à l'intérieur. Porto compte aussi des beaux jardins, comme le jardin do Palácio de Cristal, ou bien alors le jardin botanique de Porto, le parc de Serra Alves, le parc da Cidade, le jardin de Forge, avec le phare de Barra do Douro. Et pour finir, un curieux bâtiment contemporain, la Casa da Música. Il fut construit par le célèbre architecte Rem Koolhaas. Il se visite en parcourant les innombrables couloirs labyrinthiques. De plus, un élégant restaurant se situe tout en haut de l'édifice, donnant une belle vue sur les jardins du rond-point de Boavista. Et puis, pour finir, une des grandes fêtes populaires qui se passe à Porto, c'est bien sûr la Festa de Saint-Juan, qui attire au mois de juin des centaines de milliers de personnes dans les rues de Porto. À l'origine, elle commémorait le solstice d'été. Étant une fête païenne, l'église s'en est accaparée et en a fait une fête religieuse. Voilà. Et pour finir notre émission, voici une petite pépite. Une version de Vodar de Beberador, d'Amalia Rodriguez. En français, cela fait la maison du sur le port. À une prochaine fois.
dans la maison sur le port. Les volets se sont ouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés sous un tube de néon. Un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Pourtant je suis revenu une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant, mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé, du passé. Vainement j'ai recherché cette fille que j'aimais, savait aussi chanter aimer. Je vous dis que tout est mort, très bien mort, dans la maison sur le port. Ce n'est pas sur mes 20 ans que je pleure. Bien souvent, avec les filles, j'ai pleuré, mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours, nos amours. Je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, allons boire pour oublier un petit mal, puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port. Puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port.
Na margem direita linda, o sabor beija a rosa, mais do tua e ainda Corvo, Tâmega e Sousa. O Douro ao correr quer dizer, nas suas canções afinal, cá vou a passar para te beijar, ó meu Portugal. Ele vem da Espanha e banha as margens que estão coloridas, une os corações de duas nações que são sempre. Na margem esquerda tão boa, o Rio Douro aguarda, o Águeda mais o Coa, Távora, Paiva e Arda, sempre alegre a cantar, o Douro corre veloz, por fim vai desaguar, junto a São João da Foz. O Douro ao correr quer dizer, nas suas canções afinal, cá vou a passar para te beijar, ó meu da Espanha e banha as margens que estão coloridas, une os corações de duas nações que são sempre unidas. Ele vem da Espanha e banha as margens que estão coloridas, une os corações de duas nações que são sempre unidas.
Bom.
Usa chinela, tem movimentos de gata. Na canastra, a caravela. No coração, a fregata. Na canastra, a caravela. No coração, a fregata. Em vez de corvos no chaila, gaivotas veiam poesia. Quando o vento a leva ao baile, baila num baile com boi. Quando o vento a leva ao baile, baila num baile com boi. Que de conchas o vestido, de algas na cabeleira, e nas veias o latido de um motor de uma carneira, e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sonhos e maresia, tempestade se apregoa. Seu nome é próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome é próprio Maria, seu apelido Lisboa.
Maximum de son, 96.9.
C'est Radio Résonance.
Chers auditeurs de Rencontres Lusophones, merci à vous de nous être fidèles. Et rendez-vous ici même samedi prochain pour une prochaine émission où nous élargirons un peu notre espace lusophone pour partir à la découverte de l'archipel de Saint-Thomé et Principe. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres.
Chers auditeurs de Rencontres Lusophones, merci à vous de nous être fidèles. Rendez-vous ici même demain dimanche à 20h30 pour la rediffusion de cette émission. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de Radio Résonance Bourges. Rendez-vous ici même samedi prochain pour une prochaine émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et sortez masqués. À demain.